Adrien, un Aveyronnais dans l'enfer des tranchées.
1er août 14, Clairvaux d'Aveyron, vallon de Marcillac.
La chaleur est étouffante. Une agitation inhabituelle règne en cette fin d'après-midi.
Les cloches résonnent, relayées par le tambour du garde-champêtre.
Les villageois se retrouvent devant l'auberge, face à l'affiche, fraîchement placardée.
Adrien Bousquet reste sans voix à la lecture de l'ordre de mobilisation.
Alice, sa femme, s'inquiète déjà pour les prochaines vendanges. Leurs enfants, Marcel et Jeanne, jouent à chat perché avec leur jeune tante Madeleine.
Les commentaires fusent de toutes parts. L'enthousiasme des uns se mêle aux craintes des autres. Pierre, l'instituteur, monte sur la fontaine pour prendre la parole.
La guerre ne sera pas longue.
Sa femme, Elisabeth, pourra bien le remplacer quelques mois pendant son absence.
Adrien part donc ce jour-là à la guerre. Pourquoi ? L'assassinat de François Ferdinand d'Autriche déclenche-t-il cette guerre alors que, à l'échelle de l'histoire, cet événement n'est pas des plus importants ?
C'est vrai que l'assassinat est un événement fortuit.
Monsieur Moisé, historien.
Les vraies causes, elles viennent d'ailleurs. C'est d'abord que depuis de longues décennies, les puissances européennes sont rivales, elles se jalousent, elles s'épient, elles se combattent parfois dans les colonies. Et la rivalité coloniale est un premier facteur d'instabilité. La deuxième cause lointaine, c'est la course aux armements. Ce que l'on appelle les impérialismes, les rivalités de puissance, poussent chaque pays à fabriquer des armes. Et puis la troisième raison, c'est ce qui touche à l'Europe même. De grandes puissances cherchent à s'étendre. Elles rêvent d'expansionnisme. Et tout cela crée évidemment des conflits de frontières et crée donc une instabilité politique. Et comme chaque puissance se sent menacée, elle recherche des alliés. Et voilà une quatrième raison de cette guerre, c'est le jeu des alliances. Et pour la France s'y ajoute une autre cause qui est particulière. Depuis 1871, depuis la perte de l'Alsace et de la Lorraine, la France rêve incontestablement de revanche. Alors, ça n'est pas la cause de la guerre, c'est vrai, mais c'est un élément qui va expliquer pourquoi la France, qui est l'allié de la Russie, l'allié du Royaume-Uni, va accepter cette guerre comme une guerre juste. Et là, vous voyez qu'on est loin de Sarajevo et de l'attentat mortel du 28 juin 1914. Le 2 août, nos soldats partent en guerre pour, disent-ils, reprendre l'Alsace et la Lorraine, alors que ça n'est pas la cause effective de la guerre.
Ils sont tombés comme les blés, les gars si fiers de leurs 20 ans, ils sont tombés comme les blés, sans avoir mangé leur pain blanc.
Ils sont tombés comme des fruits amers en leur verdeur, ils sont tombés comme des fruits, sans épuiser tous les bonheurs.
À des bisous.
Clairvaux, le 30 décembre 1914. Mon cher frère, j'espère que tu vas bien. Tu n'étais pas avec nous pour Noël. Tes enfants étaient tristes. On vient de tuer le cochon et on t'envoie du saucisson et de la saucisse. Nous avons appris une triste nouvelle. Ton ami Albert est mort au front. Chaque jour, nous appréhendons la venue du facteur. Tu trouveras dans le colis deux bonnets, un gilet que j'ai tricoté pour toi. Ta sœur qui espère te revoir très bientôt. Madeleine.
Clairvaux d'Aveyron, le 13 décembre 1914. Mon papounet chéri, je n'ai pas reçu de lettre depuis un mois. Avec maman, on s'inquiète. L'hiver est rude ici aussi. Il me tarde que tu rentres à la maison. À la ferme, nous travaillons dur pour que tu sois fier de nous. En tout cas, j'espère que cette satanée guerre ne durera pas 10 ans. Sinon, je devrais y aller moi aussi. Je t'aime, papa. Marcel.
Le poilu, soldat de France, qui sans peur marche tout combat.
14-18, c'était la grande guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la grande guerre. 14-18, la folie meurtrière.
Partout des trous d'obus, comme la fin d'un monde qui leur tombait dessus.
14-18, c'était la der des der.
Le poilu, le soldat français.
10 février 1916. Cher journal, je t'écris aujourd'hui pour te dire qu'en rentrant à la maison, maman m'a tendu le journal en pleurant. Je l'ai lu et j'ai vu en gros plan un article sur les gaz asphyxiants. Voilà ce qu'il y avait d'écrit. 1. Dans chaque maison à étage, prévoir une pièce spacieuse, la plus close possible, la calfeutrer en bouchant toutes les ouvertures. 2. Dans chaque localité, des chambres communes, préparées selon les mêmes descriptions, sont mises à la disposition des habitants. 3. Avoir toujours sur soi la cagoule que la mairie a distribuée. À la première partie, j'ai pris peur pour mon papa, car dans les tranchées, il n'y a pas de maison, et surtout pas d'étage. Ces gaz ont l'air vraiment terribles. À demain, journal.
Dans un profond ravin, massés en escadron, retenant leurs chevaux, piaffant d'impatience, des dragons l'œil en feu, s'élèvent ton...
Cher instituteur, vous nous manquez beaucoup. Et nous pensons à vous tous les jours. Viendrez-vous en permission pour Noël? Nous espérons vous revoir très bientôt. Notre nouvelle maîtresse, Madame Elisabeth, est très gentille avec nous. Elle nous a promis de faire le maximum pour que nous puissions avoir des cadeaux pour Noël. Hier, un dirigeable est passé dans le ciel. Nous avons été impressionnés. Et elle a décidé de nous faire travailler dessus. Nous adorons. Le maire est venu l'autre jour. Il nous a interdit d'utiliser les lampes à pétrole. Jeanne et Marcel ont envoyé des lettres à leur papa. Il ne leur a pas encore répondu. Savez-vous où il se trouve? Ce que l'on entend ici, à propos de la guerre, nous fait peur. Bonne chance pour tous, vos élèves qui vous aiment.
A comme notre nouvel ami anglais, John.
C comme casque.
D comme drapeau tricolore.
E comme explosion.
F comme fusillé.
G comme prospection.
I comme instituteur, mon ami Pierre.
M comme mitrailleuse.
P comme poilu.
Q comme quartier général.
U comme uniforme.
X, Y, Z comme zappeleur.
Clairvaux, le 5 mars 1915. Cher papa, je suis contente que tu aies reçu mes gants et le chocolat. Notre vache, Paquerette, a donné naissance à 2 veaux et la maman chèvre à 1 chevreau. De quoi se compose ton uniforme? Est-il bien chaud? Tu sais, maman m'a cousu une nouvelle robe pour le printemps. Gros bisous. Je t'adore, Jeanne.
Lettre d'Adrien Bousquet à son fils Marcel.
Le 15 janvier 1915. Mon fils adoré, j'ai bien reçu ta dernière lettre. Remercie maman pour le chaud bonnet qu'elle m'a tricoté et la tablette de chocolat. Ici, il fait très froid. J'ai les pieds dans l'eau et la boue toute la journée. Les repas sont souvent les mêmes. Il y a du pain et de la soupe, rarement de la viande. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris le taxi. C'était dans la Marne pour rejoindre nos lignes. Au front, les Allemands ont lancé une rude attaque qui nous a fait reculer. Ces jours-ci, nous perdons du terrain. Dans les moments de calme, je joue aux cartes avec mes camarades et je sculpte un obus pour en faire un vase. Nous y mettrons des fleurs à mon retour. Je t'aime de tout mon cœur. J'espère que je te reverrai bientôt. Ton papa qui t'aime.
Que possédez-vous comme document concernant la Première Guerre mondiale ?
17 lettres, 10 cartes postales, écrites en Belgique sur le front par Adrien Cross entre le 5 août 1914 et le 22 janvier 1915.
Qui était Adrien Cross ?
Adrien Cross est né à Conques en 1886. Il part à la guerre à l'âge de 29 ans. Malheureusement, pour lui, cette guerre n'a duré que 6 mois. Et c'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, à son terroir, à Conques. C'est un homme de foi, c'est quelqu'un vraiment de très très croyant. C'est également un patriote, surtout évidemment au début de la guerre. Il se montre d'abord très courageux, puis avec le temps, on voit qu'il devient plus fragile, même dans le doute.
Pourriez-vous nous lire un court extrait qui vous a marqué d'une de ces lettres ?
À la Toussaint 1914, il écrit à propos du cimetière de Conques. Quel bonheur pour ceux qui reposent là-bas. Ils sont allés au repos en compagnie des leurs.
Comment s'est terminée la guerre pour Adrien ?
Un document nous l'apprend, c'est le journal des marches et des opérations du 96e régiment d'infanterie. Le 26 janvier 1915, plusieurs soldats ont été victimes d'un lance-mine, une arme d'artillerie de tranchée. 7 blessés, 3 morts et un disparu, donc Adrien Cross.
A-t-il été médaillé ?
Alors oui, il a été médaillé à titre posthume par arrêté ministériel 3 ans après la fin de la guerre en 1921. Mort pour la France, soldat très courageux, tué à l'ennemi en accomplissant bravement son devoir. Il reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze. Cette croix se trouve toujours dans la valise.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de
pierre. Lettre d'Adrien Bousquet à sa femme Alice.
Le 12 février 1916. Ma chère Alice, j'ai bien reçu ton dernier colis. Le travail à la ferme doit bien occuper tes journées. En ce moment, je suis avec mon régiment, à Verdun. Nous défendons le fort de Douaumont avec beaucoup de détermination et de courage. Mais hier, un de mes amis est mort et depuis, j'ai peur. L'ennemi envoie souvent des obus. Et lors d'un assaut, j'ai entendu une balle siffler près de mon oreille. Quand les Boches n'attaquent pas, je joue aux cartes. Je nettoie ma baïonnette et je sculpte des obus. D'ailleurs, je t'en ai sculpté un. Et je vais te l'envoyer. Il est en forme de rose. Je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Adrien.
Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit. Nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous, c'est l'amour.
Il est parti à la guerre comme ça. Alors la mémé, il a fallu qu'elle fasse le travail. Et avec ses 3 enfants, là, elles allaient labourer.
À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, alors il fallait être levé au jour, quand le jour se levait, et on termine la journée à la nuit. Et après, le reste du temps, on le passait à côté de la cheminée avec une lampe à huile ou une chandelle.
Tu vois, ma belle-mère me parlait souvent, ils avaient 4 vaches, je ne sais pas comment ils en avaient. Alors il gardait, il faisait têter les veaux, mais alors il les dressait bien, il les prenait avec une chaîne pour aller les faire têter, il les ramenait. Mais après, quand il les prenait à la foire, il fallait partir à Cassagne avec le veau à une corde, à pied. Oui, il le faisait suivre, il le suivait. Et tellement que ma belle-mère me disait, des fois, quand on était à la foire, le marchand leur disait, souvent dans le bon prix, il faut que vous veniez à Rodez. Et bien, ils partaient avec le veau par la corde. Ils étaient plusieurs, il y en avait d'autres, c'était pas les seuls. Ils allaient l'amener à pied à Rodez.
Oui, il faut dire aussi qu'à l'époque, bon, les personnes valides partaient à la guerre, mais ils restaient toujours les personnes âgées. Mais bon, commençaient à se tasser un peu, mais ils avaient repris un peu de courage pour aider les familles, disons, où il y avait 3, 4, 5 enfants.
Mon cher Marie, j'espère que tu vas bien. La guerre est longue. Quand te reverrai-je ?
Les élèves me demandent tous les jours de tes nouvelles. Ils t'aiment beaucoup. Tu leur manques.
Cela fait déjà si longtemps que tu es partie. J'ai mal au cœur de ne plus pouvoir te sentir près de moi.
Il me tarde que tu répondes à cette lettre.
Ma chère Elisabeth, merci pour ta lettre. Le vague maître me l'a déposée hier matin. Je ne cesse de la relire depuis.
Tes mots me donnent la force de continuer dans cet enfer.
Je ne suis pas blessée. C'est déjà beaucoup. Les conditions sont très pénibles dans les tranchées. Nous dormons dans la boue et le froid, avec pour compagnie les Gaspards qui nous réveillent plusieurs fois par nuit.
Seule bonne nouvelle, je me suis fait un nouvel ami sur le front. Il s'appelle John, un soldat britannique, gallois plus exactement. Il a 29 ans, comme moi. J'ai appris qu'avant son arrivée sur le front, il était agriculteur, comme Adrien. Penser à mon camarade tombé l'an dernier m'a rendu triste.
Au fait, le mari de Madame Pinson a été tué au combat. Presque tout le village a assisté aux funérailles. Depuis ce jour, la pauvre femme se rend tous les jours sur sa tombe.
J'espère que le vague-maître t'apportera vite cette lettre. Je t'embrasse comme je t'aime. Ta femme, Elisabeth.
Je dois à présent terminer ma lettre et te laisser, car l'adjudant vient de siffler le rassemblement. Ma chérie, je pense tellement à toi. Reçois mes plus affectueux baisers. Pierre.
Je possède un carnet que mon père tenait dans les tranchées. Il le mettait à jour tous les jours, il tenait son calendrier.
Pourriez-vous nous lire un court extrait ?
Alors, je prends en effet un extrait de ce carnet. Le 20 décembre, nous avons reçu d'énormes renforts. Les batteries d'artillerie sont très nombreuses. Il faut déloger cette vermine. À 8 heures, l'artillerie se réveille. Pendant une heure, on ne s'entend plus tellement la canonnade est vive. Puis c'est l'assaut à la baïonnette, c'est souligné la baïonnette. Une compagnie entière, la 18e, est complètement démolie. Les autres le sont à moitié. Presque tous les officiers sont tués. Pendant ces combats, dans la bataille, nous avons perdu 300 hommes et nous avons gagné un bois d'une vingtaine de sapins. Point d'exclamation.
Qui était votre père ?
Mon père est né en 1885, donc quand il est parti à la guerre, quand on l'a mobilisé, il avait 29 ans.
Chers soldats de Verdun,
Verdun. La bataille de Verdun commence en février 1916 et finit en décembre 1916. 350 000 soldats français et autant d'Allemands sont morts. 300 000 hommes sont gravement blessés. Pourquoi cette bataille est-elle importante ?
Souvent, on associe la guerre 14-18 à Verdun. C'est parce que le choix que nous imposaient les Allemands de combattre coûte que coûte à Verdun va se traduire par un effort militaire sans précédent. D'où un effort pour imposer à pratiquement tous les régiments français de passer à un moment ou à un autre à Verdun. Le deuxième élément de cet événement, c'est que pour alimenter Verdun, qui est un saillant, il a fallu créer un système logistique de transport d'hommes, de munitions, entre Bar-le-Duc et Verdun. Et c'est devenu ce que nous appelons la voie sacrée. Et puis pour nous, les Aveyronnais, il y a une quatrième raison de l'importance de Verdun. L'évêque de Verdun, en 14, était l'ancien curé de Sainte-Afrique, l'abbé Ginisti, qui avait été nommé évêque de la Meuse, et qui va évidemment contribuer lui aussi par ses lettres aux Saint-Africains et aux Aveyronnais, par ses voyages dans notre département, à maintenir le lien entre notre département et notre ville de Sainte-Afrique et le secteur de Verdun.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours.
Chers élèves, je vous écris brièvement du front, engagé dans cette guerre qui semble vouloir durer. Ici, les conditions de vie sont difficiles. Dormons peu à cause des bruits d'obus qui ne cessent de tomber.
L'époux, que l'on surnomme Toto, ne nous laisse aucun répit non plus. Trop de mes camarades de lutte sont déjà tombés. Compte tenu des circonstances, je ne saurais que vous conseiller de continuer à travailler pour bien comprendre le monde qui vous entoure. Vous éviterez ainsi de reproduire les erreurs de vos aînés. Prenez bien soin de votre maîtresse. Affectueusement, votre instituteur, Pierre.
Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Le 8 mai 1916. Cher journal, pour moi, chaque jour, c'est l'école et la ferme. Mais aujourd'hui, j'ai enfin quelque chose à te dire. Il y a quelques semaines, la femme du médecin Louise est partie faire infirmière au front. Elle a soigné mon papa parce qu'il s'est blessé au bras avec des barbelés. Mais ce n'est pas grave, heureusement. J'ai eu très peur quand Louise nous a écrit, mais elle nous a vite rassurés. Papa va bien.
Les États-Unis sont entrés en guerre le 5 avril 1917. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment neutres avant? Et pourquoi sont-ils entrés en guerre à ce moment-là?
L'entrée des États-Unis va modifier le rapport de force. D'autant que dans notre armée, il y avait déjà des signes de lassitude. On parle même de mutinerie. Autre élément essentiel en 17, c'est la difficulté économique. Cette guerre que l'on pensait courte épuise le pays. Donc l'arrivée des États-Unis a d'abord cet effet essentiel de modifier le rapport de force en faveur de l'entente, en faveur de la France et du Royaume-Uni. Si les États-Unis entrent en guerre en 17, c'est qu'avant ils étaient neutres. Cette neutralité était en fait trompeuse. Certes, les États-Unis ne faisaient pas la guerre, mais ils aidaient commercialement les Anglais et la France. Ce qui a été déclenchant, c'est la guerre sous-marine à outrance. Nos flottes empêchaient le commerce international de l'Allemagne de se développer. La conséquence, c'est que les sous-marins allemands ont détruit des bateaux anglais, des bateaux français, et puis, comme les difficultés économiques étaient fortes, ils ont aussi détruit des navires neutres, donc des navires américains. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de la liberté des mers, au nom de la liberté du commerce, bien les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne.
L'armistice de 1918, signé le 11 novembre à 5h15 du matin, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Quelles ont été les conséquences de cette signature?
Vous avez dit que ça n'est pas une capitulation. Et voilà la clé. C'est bien un armistice. En Allemagne, la situation intérieure est catastrophique. Les dernières troupes engagées n'arrivent plus donc à assumer ce conflit. On manque de réserves humaines. L'économie de l'Allemagne est totalement catastrophique. Et surtout, on parle de révolution. Et donc, le gouvernement allemand a anticipé par des négociations l'arrêt des combats. L'armistice est signé. Les conséquences sont énormes. La première conséquence, c'est ce traité dit de Versailles. Alors pourquoi la France, Clémenceau, a-t-il voulu que le traité soit signé à Versailles? C'est pour effacer ce qui s'était passé en 1871, où après notre défaite, le nouvel empire allemand avait imposé qu'il y ait une grande proclamation dans la Galerie des Glaces de Versailles. Eh bien, pour effacer 1871, on a imposé à l'Allemagne vaincue de signer dans la Galerie des Glaces le traité de Versailles. L'autre conséquence, c'est pour l'Allemagne elle-même. l'Empire autrichien donne naissance à une multitude d'États qui sont autant d'éléments des nationalités qui composaient le vieil empire. Et pour l'Allemagne, le traité de Versailles est terrible. D'abord, cet empire disparaît. L'Allemagne devient une république. Elle perd des territoires. Ça donne naissance à un nouvel État, notamment à l'Est, la Pologne. Elle est condamnée à payer à la France et à ses alliés des indemnités de guerre au titre de dommages. Ça veut dire donc que les vainqueurs considèrent que l'Allemagne, qui a certes perdu la guerre, est coupable d'avoir fait la guerre. Et donc elle doit payer. Et qu'elle doit payer les dégâts qu'elle a fait aux autres. C'est une nouveauté dans le droit international. Et puis, dernier élément, puisque l'Allemagne est considérée comme belliciste, comme responsable de guerre, eh bien, on lui interdit d'avoir une armée. Dernier point, comme elle est indigne, ou que l'on décide qu'elle est indigne, on lui confisque ses colonies. Et pour bien montrer aux Allemands que les vainqueurs ne céderont pas sur les exigences incluses dans le traité, on la condamne à être occupée. Et cela va évidemment être pour la France un motif de fierté, mais cela va aussi avoir comme conséquence très négative de susciter chez les Allemands vaincus une très forte humiliation. Et c'est Hitler qui va bâtir son nationalisme et sa prise du pouvoir sur ce refus de ce qu'il appelait, lui, le diktat, et le traité de Versailles.
Venez dans mon grenier, on va se déguiser. Là, dans cette malle, il doit y avoir de vieux habits.
Ouvrons-la.
Oh, les habits de soldats.
Regardez, des lettres.
Passe, je vais les lire. Août 1917, cher Gaspard, je m'appelle Madeleine et on m'a choisie pour être votre marraine de guerre. J'ai 18 ans et je vis en Rouergue. Je travaille dans une usine qui fabrique des obus. J'aide aussi ma belle-sœur Alice à la ferme. Il y a 3 mois, mon frère Adrien, son mari, est mort au front.
À moi maintenant. Je pense beaucoup à vous. C'est signé Madeleine.
Moi, je vous lis l'autre lettre. Septembre 1917. Chère Madeleine, vous êtes la marraine d'un Breton âgé de 20 ans. Avant d'être un poilu, j'étais pêcheur.
Fais voir, je vais lire la suite. Je vous envoie un cadeau, cette bague. Je l'ai fabriquée avec une douille d'obus. J'attends votre prochaine lettre. Signé Gaspard.
À qui sont ces lettres? Venez, on va demander à mamie.
Ce sont les lettres que s'envoyaient mes grands-parents pendant la Grande Guerre.
Allons jouer à Gaspard et Madeleine.
Ouais !
Adrien, un Aveyronnais dans l'enfer des tranchées. Un documentaire proposé par les élèves des écoles de Clairvaux d'Aveyron, La Salvetat-Peyralès, Recoule-Pruvinquière, Ruillac-Saint-Cyr, Saint-Félix-de-Sorgue, Saint-Julien-de-Pillagnol et Saint-Radegonde.
Avec M. Moiset, historien, Mme Régine Combal, auteur du recueil Le destin tragique d'un poilu de Conques, l'association Les Infatigables de Ruillac, M. Salès, fils d'un poilu.
Ce documentaire a été réalisé grâce au concours du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées et des différentes associations de parents d'élèves. Coordination et formation, Éducation nationale, Groupe départemental maîtrise de la langue de l'Aveyron et Sophie Pillot, Centre culturel Aveyron Ségalavior. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont confié leurs objets et documents d'époque, ainsi que Radio Sainte-Afrique.